Bien, on va démarrer. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence table ronde sur le web livre, les enjeux de la création littéraire à l'heure du numérique. Pour ce faire, nous avons trois invités. Gwen Catala, qui est aux manettes, là, sur son Mac, en train de tweeter en direct et de donner les dernières directives pour la diffusion sur Internet, puisque nous allons avoir des internautes qui vont réagir aussi au débat. Donc Gwen va nous présenter l'évolution du marché du numérique et les différents outils de lecture, les tablettes, les readers, la lecture en ligne. Pardon. Ensuite, il abordera les normes de construction des fichiers numériques, les fameux fichiers EPUB, qui sont au cœur même du dispositif de lecture numérique. Et il évoquera également la position des grands éditeurs face à l'édition numérique. Non, c'est ça. Non, c'était celle-là, la petite, oui. Ensuite, François Bon nous parlera de Publinet, bien évidemment, et notamment qu'est-ce qui a changé depuis un an chez Publinet. Il évoquera la ligne éditoriale de Publinet, le choix des textes et des auteurs, et il abordera également la lecture en ligne et les bibliothèques. On parlera aussi des abonnements et des outils de médiation déployés, et ensuite, et pour conclure, l'édition numérique et l'insularité, puisque c'est au cœur de nos débats. Pierre Ménard, tout de suite à ma gauche, parlera de la revue de création sur la littérature contemporaine, disponible en format numérique sur Internet. Et on verra concrètement comment est née l'idée d'ici là et son évolution depuis sa création en 2008. Il évoquera aussi l'apport et l'importance de l'EPUB au cœur de son dispositif. Et pour terminer, comment écrire au quotidien ? Donc, on a un petit problème de connexion, mais bon, Gwen, on peut y aller ? Bon, je te passe le micro.
Alors, on essaie de régler nos petits problèmes de connexion.
C'est surtout ça qui compte.
Et on y est. Et on devrait tous y être. François, il faut bouger un petit peu la cam. Surtout ça, qu'on voit tout le monde. Donc on devrait tous nous voir. À la limite, on se décale un petit peu.
On se voit. Sauf toi.
C'est moi qu'on voit pas. Oui, t'inquiète. Ça devrait aller. Encore un peu. En fait, c'est parce que je veux être près de toi, c'est ça, François.
Voilà.
Bon, on devrait être bon. Bonjour à tous, merci d'être venus. On est très très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session numérique. C'est la quatrième. On vous espère toujours aussi nombreux. Je parle dans le micro. Et pas trop long les préliminaires, d'accord. On va rentrer dans le vif du sujet et la place du numérique dans l'édition. L'année dernière, on avait quelque chose d'assez étrange qui était arrivé. C'est cette petite tablette là, qui s'appelle l'iPad. Beaucoup prévoyaient que ça allait marcher moyennement. Ils allaient en vendre quelques-unes. Et que ça partirait dans les limbes de l'histoire informatique. Il se trouve que depuis, il y en a eu des millions, même en France. C'est un outil quand même qui est assez pratique. Et que surtout, ça a déclenché une vague de lecture numérique comme on en a rarement eu. Les readers existent déjà depuis une dizaine d'années. On avait eu les premiers essais datent d'ailleurs des années 2000. Et le jour où les tablettes sont arrivées et où l'iPad est arrivé, il y a eu une prise de conscience auprès des auteurs et des lecteurs qu'avec ces petits outils-là, on pouvait vraiment faire beaucoup de choses. Les ventes ont commencé à décoller légèrement. François reprendra là-dessus après. La création commence à s'organiser. Les éditeurs commencent à bouger. Jusqu'à présent, ils étaient très attentistes. Ils observaient ce qui peut paraître logique. Et on arrive maintenant à un point où la masse critique est là. On a environ 2 millions d'iPads en France, à peu près. En reader, on n'en sait rien. Alors, je précise, les readers, ce n'est pas un écran d'ordinateur. C'est du papier électronique qui peut être lu au soleil, qui ressemble, alors je pense que tout le monde connaîtra au moins de nom, le Kindle, qui est très présent aux États-Unis. et qui sert à lire une copie numérique d'un ouvrage papier. Nous sommes sur du texte pur. Bon, on a un petit peu de décalage. Et on est toujours bon. Les tablettes sont connectées, par définition, permettent d'intégrer du lien hypertexte, de la vidéo, de l'audio, et à peu près tout ce qu'on a envie d'y mettre. Et on arrive maintenant à des revues de création, Pierre va en parler tout à l'heure, comme d'ici là, qui nous permettent d'avoir une lecture totalement immersive et une vraie expérience de lecture, comme on en a rarement vu, sauf sur le web. Sachant que le web, on a quand même un décalage, c'est un écran qui est un peu lointain, on a la souris, une tablette, on l'a dans la main. C'est une prolongation de ce qu'on est. Donc on a un milieu qui bouge extrêmement vite, des créateurs qui commencent à se mobiliser, à tenter la création, vraiment, même si on est encore au début. Et surtout, des éditeurs et des créateurs de contenu qui commencent à vraiment maîtriser le sujet. Sachant que jusqu'à présent, on était sur des formats numériques qui s'appelaient le PDF, que tout le monde connaît ici, qui est un format plat, une copie à l'identique de ce qu'on fait pour le livre ou l'écran. Et qu'on arrive à une norme qui s'appelle l'EPUB, qui est en sa version 2 et la version 3 arrive, qui nous permet d'avoir tout un tas de petites interactions dans son fichier. On est sur vraiment du codage informatique. C'est un mini site web qui est encapsulé et où il y a un livre dedans. Donc là-dessus, on a un peu buggé. On va y arriver. Bon, la connexion n'est pas très top. Sur le format EPUB, les gros éditeurs commencent à le lorgner de près, surtout sur les possibilités qu'on y trouve. C'est bon ? Ouais. J'ai perdu le fil, du coup. François, ressaisis-moi, je m'éloigne.
Sur l'EPUB.
Sur l'EPUB, oui. Donc l'EPUB, donc, je disais, est un langage informatique qui nous permet de créer des fichiers numériques. Et on est vraiment sur une approche web, écran. Donc c'est vraiment un site web encapsulé. Et on peut quasiment faire ce qu'on veut. On peut choisir sa taille de police, changer sa police de caractère, bien entendu. On peut changer d'un format paysage à un format portrait, ce qui se passe quasiment sur toutes les tablettes. On peut y mettre de la couleur, des formes, des cadres, de l'image. Quasiment tout ce qu'on peut faire sur un site internet. Maintenant, on en arrive à un point où on a des créateurs d'un côté qui pourraient ressembler à des web designers pour le web, qui sont vraiment spécialisés dans la chaîne du livre, nos chers amis éditeurs et nos chers amis auteurs, qui doivent vraiment se mettre ensemble pour arriver à recréer, puisque ça existe déjà, mais de manière assez éparse, une nouvelle grammaire numérique. Alors là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se demander qu'est-ce que c'est ce petit ovni. On est tous habitués à des mots.
Je ne savais pas que le numérique était une grammaire.
Ce n'est pas une grammaire, pas encore. Mais la grammaire numérique est à inventer. Pour l'instant, elle n'existe quasiment pas. Ou de manière très parcellaire. On est quelques-uns à faire des petits essais. Mais dans un autre sens, sur le web, ça existe depuis très longtemps. François, c'était sur le web depuis des années et des années. Les blogueurs, tous nos petits amis qui sont sur Twitter et qui lancent des textes, font de la prose narrative et j'en passe, commencent déjà à maîtriser cette grammaire. Il faut juste qu'on arrive à la transférer sur ce support-là, sachant qu'un livre, c'est une page. Ce sont des pages qu'on tourne. On a l'odeur du papier et j'en passerai. Sur une tablette ou sur un reader, on est sur une fonction de cadre. À partir du moment où on peut augmenter la taille d'une police, ce n'est plus un texte fixe. C'est un texte qui se laisse glisser par la typologie de l'appareil. Et cette grammaire-là est vraiment à utiliser. Ce qui est quand même assez dommage à l'heure actuelle, c'est que on transpose, quand les éditeurs veulent sortir une copie numérique, ils disent un livre L, mais il faut être honnête, c'est vraiment une copie numérique. On prend les fichiers imprimeurs qu'on transvase vers l'EPUB. Il n'y a aucune adaptation, aucune prise en compte de la problématique de la lecture sur écran, de l'immersion de lecture et de l'expérience utilisateur. On est vraiment là-dessus. il manque encore aux éditeurs, parce que après je ne vais pas essayer de faire trop long, à prendre en considération que le design éditorial, l'expérience de lecture est tout aussi importante que l'histoire, le texte. Alors les auteurs vont être frustrés pour certains, mais c'est un fait. Les gens qui consomment de la lecture et de la littérature sur des tablettes ne s'attendent pas juste à avoir la même chose que sur un livre papier. Ils achètent un livre papier sinon. Certes, c'est transportable, on peut en mettre plein, mais on s'attend aussi à un petit plus. Si on est sur l'homothétique, donc du texte simple, il faut que cette lecture soit vraiment adaptée. Des textes en caractère tout petit sur qui est paru avant et dans la même collection, c'est bien sur le papier. Dans le numérique, on est vraiment au-delà de ça. Tout simplement parce qu'on passe pas, on prend pas le temps de regarder. Il y a Twitter. Bon, Twitter fonctionne. Bon, je vais essayer de pas aller trop loin. Ce qui est important, c'est que on est tous partants. On a une masse critique de matériel qui maintenant est disponible. C'est certain, ces appareils-là valent quand même encore un certain prix. 500€ pour l'iPad, les readers commencent à tomber à 150€ à peu près.
Ouais, moins de ça.
On va arriver même à 100€ dans très peu de temps. C'est des outils en plus qui sont très complémentaires. On peut très bien avoir un reader pour lire à l'extérieur et on est sur de l'ouvrage classique, de la copie numérique, et des choses un peu plus contemporaines, immersive sur une tablette. Une tablette ne sert pas qu'à lire. On peut regarder des films, écouter sa musique, aller sur Internet. C'est peut-être même l'une des principales spécificités. Et on a vraiment des types de lecteurs, des typologies de lecteurs très différents entre la tablette et le reader, et qui se complètent et qui convergent d'ailleurs de plus en plus. On n'est pas tous des gros geeks qui achètent tout ce qui sort. Il faut à présent que... des gens passionnés de technologie qui achètent tout ce qui sort. Voilà ce que c'est un geek, à peu de choses près. Il faut arriver maintenant, qu'on a atteint cette masse critique d'équipement, à ce que l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, de l'auteur au créateur, jusqu'à l'éditeur, a vraiment pensé numérique, dès le début, dès même la création de l'ouvrage. Et non, a posteriori, une fois que notre PDF imprimeur est parti et là on se dit ah ben zut, ça serait bien, on pourrait être chez Apple, ils vendent pas mal en ce moment, ce qui fait qu'on se retrouve avec des copies qui sont très désagréables à lire et forcément les lecteurs ne suivent plus. Bon, je m'éloigne pas plus, je passe à François qui va parler un peu plus de l'édition, sinon on y est pendant 3 heures.
On va y être pendant 3 heures et même 5, ça nous fait rien d'occuper. Non, il y a un an on s'était déjà retrouvé ici un petit peu les mêmes grâce à Jean-Loup. Qu'est-ce qu'il y a de changé ? Moi, ce que je faisais il y a un an, donc on se disait, il faut assurer via le web l'accès à des textes contemporains qui, il y a encore 15 ans ou 20 ans, auraient aisément trouvé leur place dans une galaxie d'éditeurs qui tenaient à avoir comme ça une politique de recherche, de déchiffrement. Aujourd'hui, d'une part, ces mêmes éditeurs ont des contraintes beaucoup plus lourde et publie beaucoup moins comme ça de textes qui soient un peu de recherche. D'autre part, la diffusion en librairie, un livre, la durée de vie moyenne d'un livre en librairie, c'est de l'ordre de ces 5 semaines. Et en même temps, nos usages à nous se sont déportés. C'est-à-dire que pour moi, j'ai toujours pris le problème à l'envers. C'est-à-dire, il y a un an, on était donc avec ces outils ordinateurs. Maintenant, il y a ce que disait Gwen sur ce genre de truc. Ça veut dire qu'au lieu d'être à une table ou n'importe où qu'on mette la table, et même si ces machines sont devenues plus confortables, ne pas être à un poste fixe devant un ordinateur pour lire, écrire, échanger, envoyer des lettres, des messages d'ordre privé ou alors regarder son compte en banque, mais qu'il suffit d'un simple téléphone comme ça, il y en a dans la salle ici, pour aller discuter sur Facebook en direct, puis envoyer comme ça ce qu'on est en train de lire ou simplement lire soi-même, aussi bien Le Monde qu'un texte justement qu'on va prendre comme ça dans le train et partir, regarder ou ces choses que nous on fait. Par exemple, un article qui nous intéresse, on le repère à l'ordinateur, il suffit d'un petit clic sur un truc qui s'appelle Instapaper et hop, l'article, on va le retrouver sur notre outil comme ça, et là, on va pouvoir le lire avec le confort d'un livre. L'autre chose aussi qui s'est passée, où on commençait à trouver... Non, par exemple, ça s'est passé pile à Ouessant, pour moi, l'an dernier, Jean-Loup qui me dit « ça y est, Pages fait l'export EPUB ». Et tu te rappelles, c'était à Ouessant. Et donc, en un an, on a maintenant la possibilité de transformer notre travail de mise en page en format comme ça pour ces machines directement. Mais vous voyez, tout ça est très nouveau. Mais ça veut dire que désormais, par exemple, on a encore beaucoup de discussions. Est-ce que lire sur écran, c'est différent de lire sur livre papier ? Alors, vous avez même des études très savantes. Est-ce que la mémoire fonctionne avec la même attention dans la mesure où sur un livre ? La mémoire est spatialisée dans la page, est spatialisée dans l'épaisseur du livre. Et c'est des critères, là je m'adresse à Claude, qui sont évidemment aussi des critères d'écriture pour ceux qui organisent leur syntaxe en trois dimensions, plan et profondeur du livre, à partir de cette spatialisation mentale du livre. Alors qu'évidemment, ce qu'a dit Gwen tout à l'heure, ici on a seulement un cadre. Simplement, ce cadre, on peut se l'approprier pour avoir nos usages les plus intimes, la correspondance privée, ce qu'on envoie à ses enfants, ou une photo qu'on partage, comme les usages utilitaires, je parlais du compte en banque, comme les usages informatifs, donc aller lire Le Monde et puis voir ce qu'ils disent, ou Libé, ou ce que vous voulez, et puis donc lire un livre. Alors, nous, cette démarche, donc, pour nous, elle a 3 ans, c'est-à-dire ces textes contemporains, retrouvons leur effectuel. Rendons-les effectifs par rapport au monde, retrouvons une instance, on sait le faire avec les sites. Mais je pense que la différence entre les sites, ce qu'on trouve sur le web et le livre numérique, c'est simplement une frontière, une clôture, c'est-à-dire quelque chose où on peut accéder quand on va se balader comme ça, explorer dans les sites. D'une part, il faut une volonté. On a tout disponible sur Internet, mais comment on va trouver là où on doit se rendre ? Et pour moi, l'édition numérique, ce n'est pas simplement proposer une ergonomie du livre, c'est proposer via les... justement. En faisant en sorte que ce qu'on propose soit redistribué par là où sont les usages. Si vous avez acheté une petite machine Seabook à 120€, un Opus ou un Horizon, eh bien, eux, ils ont une librairie et vous avez acheté une machine à la Fnac, vous allez sur le site Fnac et on va... Bon, il faut que j'essaye de rester centré. Ce que je veux dire là, c'est que notre travail, ce n'est pas simplement de proposer des textes qui ergonomiquement aient la force, la même capacité comme ça de lecture dense que celle du livre, c'est de faire en sorte qu'il soit lesté de mots-clés et qu'une ressource même floue que vous indiquez sur la Fnac ou sur Amazon ou simplement sur Google via le web vienne vous amener sur une proposition d'écriture qui, elle, va être un objet comme ça dense et vous permettre de vous isoler du web et partir avec quelque chose qui est la même chose que le web mais qui a une espèce comme ça de transportabilité. Et incluant comme ça le confort de lecture. Donc, la différence par rapport à il y a un an, c'est donc qu'on proposait des textes comme ça sur un site, et si vraiment vous étiez intéressé parce que vous étiez déjà venu sur notre site, parce que la question de littérature contemporaine vous intéresse et tout ça, à ce moment-là, vous pouviez dire « je le mets dans mon panier, je vais installer mon numéro de carte bleue, et puis à ce moment-là, le texte, j'y vais m'être téléchargé dans des formats avec des noms bizarres, et je vais pouvoir le lire sur mon écran ou le transporter, etc. » On était dans une complication énorme. En même temps, moi, je trouvais le sens, c'est-à-dire on rend accessible des textes qui, sinon, demanderaient une démarche encore plus volontaire, parce que c'est là où on en est, c'est-à-dire aller dans l'univers de la librairie physique et puis là, parler avec le libraire qui va vous conseiller un truc et finalement va le commander. Et puis, on sait très bien que c'est là, en ce moment, ce que je... Non, je me disperse pas. Je pense que ce qui s'est passé en un an, c'est que au lieu de ce truc-là, nous, notre site a été repris par une masse de libraires en ligne. Libraires en ligne, ça recoupe une très large gamme, c'est-à-dire celui maintenant qui nous vend le plus, c'est iTunes, c'est un outil qui s'est fabriqué d'abord pour la musique, mais qui veut dire que sur ces outils-là, comme le petit téléphone ou pareil sur Amazon avec le Kindle, et pareil aussi sur des toutes petites équipes comme en France, on a une toute petite équipe qui s'est appelée Feedbooks, qui s'est positionnée d'ailleurs d'abord sur les livres anglophones, mais qui travaille aussi sur ce principe du one click. Ça veut dire que un texte, c'est pas difficile de faire venir avec nos histoires de mots-clés, de dire ça c'est votre centre d'intérêt. Vous savez, quand vous arrivez sur la Fnac ou sur Amazon, ils vous disent ah, vous avez acheté ça, eh bien regardez, on vous propose ce truc-là. Ça, on sait le faire. Mais ensuite, comment il faut arriver à supprimer l'instance. C'est-à-dire, nous, ça nous a amené à deux choses. D'une part, il y a un an, on proposait nos textes aux environs de 5 euros, baisser le prix, le mettre à 3 euros, ça veut dire que, ou même moins, à 1 euro, à 0,99 centimes ou 1,99. Économiquement, je ne sais pas où on va. Mais ça veut dire que on est sur un autre principe de partage. C'est-à-dire que vous n'achetez pas un livre avec un truc à 10 euros, mais qu'avec ce truc de dire simplement ce machin m'intéresse, choc, en un clic, ben, ça y est, il est sur ma machine, sans avoir à rentrer de carte bleue et tout ça, que vous passiez par la Fnac, que vous passiez par Amazon, que vous passiez par Virgin, par Cultura, enfin partout où là vous avez un compte, ou votre libraire de quartier. En tout cas, on a une vingtaine de libraires indépendants qui, comme Dialogue à Brest, par exemple, qui est capable de faire un très bon travail là-dessus. Et oui, pour rester dans le fil, pour moi, donc il y a ce truc de l'ergonomie du texte, proposer quelque chose qui permette sur ce genre d'appareil, parce qu'on les emmène dans son lit, on peut lire où on veut avec, on peut l'avoir dans son sac, un confort qui soit le même que celui du livre, même si ça fait encore largement débat et largement hurler, mais c'est à nous de faire ce travail, ce qu'on va parler là avec Pierre. Et la deuxième chose, c'est comment, dans le travail d'édition numérique, comment un travail comme ça, très pointu, va pouvoir venir répondre à une demande qui n'est pas exprimée. Personne n'a besoin de littérature. On s'en passe facilement. Et je dirais qu'il y a beaucoup de discours sur Internet, tout et n'importe quoi. Pour moi, il n'y a jamais de différence entre rentrer dans un quai de gare relais puis regarder qu'est-ce que propose le relais de la gare de Saint-Pierre-des-Corps entre les journaux porno, les machins fléchés, les romans à la mode, les derniers poches. Et puis, ça n'empêche pas qu'ils aient le prix Goncourt ou un truc comme ça. Évidemment, on n'y trouve pas de littérature contemporaine. Mais c'est-à-dire que dans ce qui fait le livre imprimé, qu'évidemment, c'est le lecteur qui définit son besoin. Mais si la littérature peut se définir, là encore, je parle sous le contrôle, comme un espace de risque, ou en tout cas un espace de gratuité, ou un espace de mise en travail de soi-même, évidemment, personne n'en a besoin, et ce n'est pas les outils consensuels, les géants même comme Amazon, comme Apple et tout ça, qui vont se préoccuper de dire « Ah, la littérature française contemporaine, soit Ravalosson et les émeutes de... » Non, il n'y a pas un besoin, c'est à nous d'aller le propulser. Ça, pour moi, c'est l'espace comme ça de la recommandation, et c'est le travail qu'on va faire à l'intérieur comme ça des géants. Le troisième et dernier point que je voudrais mettre comme ça, puis là, je n'ai pas trop le temps d'aller... Puis en plus, personne ne le voit, alors... l'écran, Jean-Loup va se vexer, mais l'important, c'est que nous, on nous voit. Avec 10 secondes de décalage, tiens, si on avait la caméra sur Joël, c'est génial, il la verrait aussi. L'idée même, pour l'instant, pour lire, il fallait emprunter le livre à la bibliothèque, emprunter l'objet, ou se rendre à la librairie, ou là, comme vous le voyez sur les tables, effectuer une transaction commerciale qui vous rend possesseur d'un objet, ou possesseur, ou dépositaire, si c'est à la bibliothèque, d'un objet. Avec le livre numérique, par exemple, parlons pas du livre, parlons de la musique. Il y a encore, on est passé des vinyles au CD, on est passé des CD à iTunes, c'est-à-dire que vous aviez des titres sur votre ordinateur. Et puis si vous avez sur votre ordinateur, il n'y a pas besoin d'avoir le disque matériellement. On peut acheter, on a un truc qui nous intéresse, on télécharge les morceaux. Et là encore, les questions de prix ont changé. Mais par exemple, moi, sur notre économie à nous, sur un titre qu'on vend 2,99 €. Il y a 49 centimes de TVA, il y a 2,50 €. Le libraire en prend 40%, si c'est Apple, si c'est la Fnac, etc. Donc, 2,50 €, donc il me reste environ 1,30 €. Et 1,30 €, je le partage en deux, entre la structure et l'auteur. Mais quasiment, on a le même prix qu'un contrat sur un livre imprimé de 15 €, avec des droits d'auteur à 11 ou 12%, qui ramène 1,4 € à l'auteur. Donc même avec un prix extrêmement bas comme ça pour diffuser le livre, l'économie pour l'auteur, elle, va très vite être au même niveau. La question, c'est qu'en musique, ce qui se passe depuis 2 ans, c'est qu'au lieu de télécharger les morceaux, et même si on n'achète plus le disque, les avoir sur l'ordinateur, avec Spotify, avec Deezer, iTunes est en train de s'y mettre, on s'abonne globalement. Mais en s'abonnant, on a un accès illimité à une bibliothèque générale de disques, et Spotify ou Deezer rétribuent les artistes en fonction du nombre d'écoutes. Et bien, pour la musique, c'est acquis. Je ne sais pas si on faisait un sondage parmi vous, mais personnellement, je ne regrette pas les 10 € par mois que je donne à Spotify. Mes habitudes d'écoute, de découverte ont été changées par ça. Et bien, avec le livre, on peut faire la même chose. C'est-à-dire que moi, au début, ce qui me gênait, c'était que je voyais toujours quelques fidèles de notre site, de nos auteurs, toutes les semaines, ils remettaient 3 € au pot et puis ils rachetaient. Ça me gênait, quoi. Ça devenait de l'épicerie. Donc on propose simplement, c'est-à-dire que les gens, tant qu'on n'avait pas d'abonnement, qu'est-ce qu'ils achetaient sur notre site? Ils achetaient les noms qu'ils connaissaient d'avance. Et ils allaient prendre un Bernard Noël, un Jacques Roubaud pour voir qu'est-ce que c'est un livre numérique ou les Fleurs du Mal, parce que c'est bien d'avoir les Fleurs du Mal sur son ordinateur. Mais aller lire un Guillaume Vissac ou je ne sais pas tous les noms qu'on pourrait mettre, allez, j'en mets un parce que je sais qu'il n'est pas en train de nous écouter. Donc il faut que je me méfie de ceux qui nous écoutent et nous regardent. Mais cette démarche-là, il ne la faisait pas. Gwen parlait de masse critique. Cette masse critique, elle commence à être là dans l'équipement. Je pense que les gens qui sont équipés comme ça prennent l'habitude aussi d'avoir un minimum de titres sur leurs ordinateurs, y compris par exemple des titres classiques, y compris des auteurs qu'ils ont déjà repérés. Mais de là à faire la démarche d'aller rejoindre des auteurs qui surgissent ou des auteurs dont c'est les premiers travaux, on en est très loin encore. Et pour moi, l'abonnement, c'est là. Tout à l'heure, je regardais avant de partir le texte qu'on a mis en ligne avec Zoar il y a environ 4 mois. Je suis à 21 téléchargements. Quelle honte, tu dis. Zoar, on a fait tout ce travail et on a 21 personnes qui ont téléchargé ton texte. Je te dois déjà 35 €. C'est bien, on peut les dépenser en tickets repas en face, ces trucs. Mais par contre, ce n'est pas là. Ce qui compte, c'est que sur les 150 abonnés qu'on a, eux, ils seront quasiment tous partis voir ça. Et cette masse d'argent collectée par les abonnements, je sais exactement quels titres ont été chargés et je peux la répartir aux auteurs. Mais du coup, la curiosité, c'est-à-dire j'ai accès à tout ce catalogue, à ce moment-là, je vais finir là. Donc, par exemple, on a les bibliothèques, leur problème, par exemple, ils disent on veut vous acheter tel et tel titre. Et nous, on dit non, ils nous achètent toujours les mêmes titres, on s'en fiche. La question, c'est de dire abonnez-vous à tout le truc et que nous, on soit capable de vous proposer un mode de lecture en ligne qui vous rende sur votre propre appareil le truc aussi confortable. Par exemple, on a l'Institut français de Londres. Les gens, Londres, c'est très grand. Donc, venir à l'Institut français, c'est venir une fois tous les 15 jours, 3 semaines, parce qu'il y a un film ou il y a une soirée ou un débat ou une rencontre. Et puis ce jour-là, on change ses livres à la bibliothèque et tout ça. Avec le numéro de sa carte de bibliothèque de l'Institut français de Londres, où que vous soyez dans l'agglomération londonienne, vous entrez votre numéro de carte et vous avez accès à toutes les ressources auxquelles ils sont abonnés. Champ Libre à Rennes le fait aussi. Limoges le fait aussi, mais c'est tout en France. La BNF le fait aussi. C'est-à-dire, si vous avez une carte de lecteur de la BNF, vous avez accès à la totalité de nos titres, et donc vous pouvez les découvrir, aller les respirer et tout ça. Et si vous voulez l'acheter ou le télécharger, libre à vous, mais ce n'est pas la peine. Et là, par exemple, il y a 4 mois, on a commencé à travailler avec la bibliothèque de Montréal. 43 bibliothèques réparties sur la ville, dans un endroit où la question de la langue française, évidemment, c'est... en 4 mois, ils ont eu 35 000 pages de notre site qui ont été lues en ligne. C'est-à-dire que là, évidemment, dans le continent américain, il y a la lecture en ligne a gagné comme ça cet espace. Et nous, sur la liseuse, là, c'est ce qu'on va avoir. Là, je passe tout de suite la parole à Pierre. On peut avoir comme ça le son, l'image et tout ça. Mais là, on est en train d'amorcer une nouvelle révolution. C'est-à-dire l'accès à des documents littéraires forts qui sont l'expérience d'aujourd'hui, qui sont le discours ou l'interactivité de la littérature avec le présent direct du monde. Et Isabelle ne nous écoute pas, mais il faut qu'on parle. On a dit qu'on parlerait quand même du truc insulaire. Hier, je parlais comme ça. En quoi les émeutes de Madagascar qui s'en prennent à la télé et qui s'en prennent au bureau sont une instance politique différente de notre histoire de l'émeute depuis 1830 jusqu'au truc de Londres de la semaine. Moi, j'ai besoin de ce texte sur Tananarive qu'on a mis en ligne. On a besoin de le partager. Et un des trucs moi qui me mâche, et j'espère qu'on se retrouvera ici pour en parler, c'est que qu'est-ce que ça me mâche de voir que les anciennes frontières, ce mot que je hais de francophonie, on n'a pas encore réussi à les foutre en l'air sur Internet. Alors que tout est prêt pour que... C'est pour ça hier que j'ai réagi. Quand je lis ton travail sur les émeutes de Madagascar, je ne lis pas le travail d'un auteur de Madagascar. Je lis le contemporain et j'ai besoin de ce contemporain. Et en tout cas, voilà à quoi on bosse.
Quelques questions déjà, des réactions?
Alors, oui. Ça marche ? Oui. Pour moi, à la création de Publinet en 2008, il m'a semblé important d'accompagner ce lancement par la création d'une revue qui soit une forme de laboratoire et qu'on puisse expérimenter. Et je pense que c'est pas si bien dire quand on a lancé cette expérience, car aujourd'hui on en est au 7e numéro qui a été diffusé en juin, le 8e est en préparation. À chaque fois c'est un numéro thématique. Le prochain numéro sera sur la ville, le dernier était sur le temps. Donc chaque numéro a évolué, technologiquement évolué, mais aussi dans son principe, et ça, c'était une façon d'accompagner aussi Publinet. L'idée de cette revue, c'est donc d'être un laboratoire, de partir du cœur des auteurs de Publinet. À chaque fois, il y a toujours, sur les 40 auteurs de la revue, une quinzaine d'auteurs qui sont des auteurs qui écrivent régulièrement sur Publinet. Et puis autour, et bien, à chaque fois, essayer d'ouvrir, d'aller vers d'autres personnes. L'idée de la revue, c'est à la fois d'être multimédia, c'est-à-dire qu'elle est accompagnée d'une bande-son. Je vais essayer de montrer en même temps, mais ça ne va pas être forcément évident. Si tu peux le tenir plutôt... Ouais. Je sais pas si on peut, oui, mais si on peut la voir là, du coup. Donc l'idée, c'est d'expérimenter dans cette revue des textes tous très différents autour d'une thématique, avec de la photo, de la vidéo, la possibilité de lire de manière aléatoire. Voilà. Et est-ce que du coup c'est retransmis? Est-ce qu'on va le voir? Oui. Mais est-ce qu'on le voit? Oui.
Tu peux juste annoncer pour ceux qui voudront le regarder, pendant la demi-heure qui suit, faire une petite.
Oui, après, à l'issue de la rencontre, vous aurez la possibilité de regarder sur l'iPad directement et de consulter voilà. La revue, parce que à chaque fois c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une revue qui est vraiment conçue spécifiquement pour cet outil-là, avec une manière de lire, c'est-à-dire qu'il y a un sommaire, une 40aine d'auteurs, à peu près 200 pages. Si tant est qu'en numérique, bien entendu, les pages veuillent encore dire quelque chose, puisque en fonction de la taille du caractère, bien entendu, voilà, le nombre de pages évolue. Et donc, il y a une bande-son qui accompagne, c'est-à-dire qu'on peut lire de façon chronologique, tourner les pages et écouter la bande-son en parallèle. À chaque fois, avec l'outil, on peut aussi agrandir les photos. Il y a beaucoup de photos, des portfolios, et donc on peut rentrer dans les photos et les voir dans les meilleures conditions. Voilà, donc ça, c'est quelque chose. Moi, ce qui m'intéressait avec Publinet, c'était d'aller dans tout ce que le livre ne peut pas faire, c'est-à-dire le multimédia, le son, l'interaction, la possibilité, le sommaire actif, interactif, c'est-à-dire vraiment, vous cliquez sur le nom de l'auteur, vous allez directement sur le texte. Dans le principe, ça existe bien sûr sur le livre, mais là, ça devient effectif, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je clique sur la photo, elle va s'agrandir et je peux voir vraiment le travail du photographe. Voilà. Alors, il y a aussi l'idée que je peux lire de façon linéaire, mais aussi avoir une lecture non linéaire avec tout un réseau de liens à l'intérieur des textes qui renvoient de texte en texte. Voilà, une chose que seul le multimédia permet de faire. Et aussi dans la fabrication de la revue, c'est quelque chose que je fais, que j'anime voilà, seul, que je mets en page seul. Après, Gwen m'aide pour la partie création du fichier EPUB dont il a parlé tout à l'heure, qui permet d'être consultable sur iPad. Mais tout ça pour vous dire que les 40 auteurs sont contactés beaucoup plus facilement qu'on peut le faire aujourd'hui encore pour une revue papier, voilà, et de façon rapide. Donc là, on a lancé le 8e numéro, il sortira le 21 décembre, donc voilà, sur le thème de la ville. Celui-là, c'était sur le thème du temps. Sinon, on peut peut-être voir aussi voilà, l'autre expérience qui va encore... qui est en avant-première, exactement, qui n'est pas encore sorti. Donc ça, c'est une série d'ateliers d'écriture que j'ai menés à partir de 2005 sur un site. Au début, un site qui s'appelait Marel, qui était un site sur le format wiki, comme Wikipédia, qui permettait aux internautes, donc toutes les semaines, je mettais en ligne un atelier d'écriture et les internautes pouvaient automatiquement mettre leur texte en fonction de la contrainte que j'avais mise. Donc il y a 365 ateliers qui ont été mis en ligne toutes les semaines. L'expérience est terminée l'année dernière et donc on a décidé de le publier sur Publinet. Au départ, la première version est une version assez simple où j'avais repris simplement les contraintes, les 365 contraintes avec le titre de l'auteur, le titre et l'éditeur et un lien vers le site. Et puis avec Gwen et François, on s'est dit que ça serait intéressant d'aller plus loin dans l'outil et d'essayer de voir comment on pouvait rendre ce texte qui est protéiforme, c'est-à-dire que c'est à la fois un texte poétique, c'est à la fois un texte sur les ateliers d'écriture, un texte mode d'emploi d'écriture. Voilà. Et donc là, la possibilité, c'est on a la contrainte d'écriture, on a, si on clique sur le titre, on va avoir l'intégralité de l'atelier d'écriture, c'est-à-dire la proposition d'écriture, la présentation de l'auteur, un extrait du texte, des liens qui permettent de découvrir ce texte et cet auteur. Et donc ça, c'est là une prouesse technique qui a été permise grâce à Gwen et qui permet de faire un fichier comme ça qui est assez impressionnant parce qu'il y a 365 textes. Voilà. Il y a aussi la possibilité, tous les ateliers ont des thèmes, on peut aussi rentrer dans les ateliers par les auteurs, par les thèmes et de manière non linéaire encore une fois parce que moi c'est ce qui m'intéresse dans cet outil-là. C'est d'essayer d'arriver à une lecture aléatoire. Alors, j'ai un autre projet sur lequel je travaille qui s'appelle Les lignes de désir et qui sera un texte écrit de cette façon qu'on pourra lire de n'importe quel ordre. Voilà. Donc, ça va dans ce même sens.
Bien, il y a quelques questions peut-être, oui, Zohar. Tu peux. Attends, on va un micro. Un micro là. Voilà. On amène un micro.
Oui, j'avoue que quand j'ai fait l'expérience de la publication sur Publinet, c'était la diffusion différente qui m'intéressait. Mais là, Gwen, tout à l'heure, avait évoqué que, en fin de compte, c'est le livre même qui change lorsque on rentre dans ce micmac numérique. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est en fait le changement dans l'écriture même. Je me dis, donc je suis en voie de disparition parce que moi, je travaille mes mots, je travaille mes textes, etc. Et là, si on va dans le sens de ce que tu disais, Gwen, c'est qu'après, en fait, le livre, il va changer. Il y aura des photos dedans, il y aura de la musique. Tout ce que je fais en mots jusqu'à maintenant, j'aurai plus besoin de le faire parce que je vais parler d'Ouessant, par exemple, et donc il y aura une photo avec, il y aura le son de la mer, etc. Et ouais. Donc tout ce que je fais par écrit, que je mets beaucoup de temps à travailler sur l'écrit, en un clic, le lecteur, il est là. Peut-être qu'il aura même de l'odeur dans l'année prochaine, parce que ça va très vite, la technologie.
Des livres numériques qui sentiront, on va y arriver un jour.
Bah oui, et donc moi, je vais disparaître, c'est ma Alors, question.
Dans ces cas-là, il faut se poser la question différemment. C'est le rapport de l'auteur à son texte et à comment il veut le transposer. On a tous changé notre manière d'écrire. À l'époque, nous avons Henri Lebal qui écrit à la plume sergent-major, qui est un exemple extraordinaire et qui pour autant n'est pas fermé au numérique. Quand à l'époque, on avait besoin d'une bibliothèque énorme pour... Je voulais parler de Madagascar à un moment donné, de manière très subtile. Il fallait que j'aille faire des recherches à la bibliothèque, ça prenait un certain temps. Maintenant, un coup de Wikipédia, et c'est quasi instantané. Tu as cette manière aussi, dont beaucoup d'auteurs ont, d'avoir l'Internet comme outil. C'est un outil. Après, c'est à l'auteur de se dire, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que j'utilise pas. Est-ce que cette facilité gratuite, je l'intègre dans mon processus de création ou pas? La vidéo, pour la vidéo, on est sur du bonus. Tu prends un texte sur l'iPad, par exemple. On y met de la vidéo, une bande sonore. Y mettre juste « je me suis inspiré de tel et tel et tel morceau pour écrire ce livre », c'est une aide, c'est une notice à la limite. Mais en aucun cas, ça ne pourra sublimer la lecture. La lecture, c'est ce que tu as voulu transmettre, c'est le texte.
Exactement.
Une vidéo basique, on est sur le même principe. Quand tout à l'heure je parlais de nouvelle grand-mère, je voulais aller au-delà. Grammaire, c'est l'accent du sud thaïlandais qui fait ça. La nouvelle grammaire, la nouvelle syntaxe peut permettre d'utiliser la vidéo, la création vidéo, comme un support supplémentaire, un personnage supplémentaire. On peut tout à fait moduler. Je pense surtout à la poésie qui peut être, à mon avis, peut-être le plus intéressant à expérimenter de ce côté-là. On a depuis toujours des poètes qui utilisent l'image, mêlant le son aussi. Tout ça, on peut l'utiliser. Après, la gratuité...
Tout ça, c'est des menaces sur les mots, c'est ce que je voulais dire.
François va répondre à ça.
L'état de menace, de toute façon, je pense qu'il a été permanent sur tout exercice de la littérature. Nos vieux prophètes Isaïe et Jérémie de la Bible, ils n'étaient pas dans des conditions de vie très glorieuses, hors menace. D'autre part, par exemple, ces réflexions sur qu'est-ce que ça va chambouler et qu'est-ce que ça va nous, en quoi nous on disparaît. Ce qui est marrant, c'est par exemple quand arrive le codex au lieu du rouleau, dans les épigrammes de Martial, il y a déjà la même truc. Quand arrive l'imprimerie, il y en a aussi qui disent ça, il y en a, et pareil pour l'arrivée du feuilleton. Et donc, si on replace comme ça dans l'histoire des quelques mutations de l'écrit, parler de la plume sergent-major de Henri, mais quand les plumes en métal arrivent, Flaubert dit si on n'écrit plus en taillant soi-même sa plume, il nous manquera quelque chose dans l'écriture. Donc même Henri est un traître à l'égard de l'histoire de l'écriture. Mais par contre, pour moi, il y a deux trucs. Le premier, c'est que pour moi, Une fois qu'on est habitué à ça, même si c'est des outils encore, par exemple celui de Gwen, il pèse deux fois moins lourd que le mien, il va deux fois plus vite. Donc on est encore dans quelque chose, on est un petit peu les dinosaures du futur. Ça continue d'évoluer. Mais si je lis Proust ou si je lis Saint-Simon, ça ne me fait rien de les lire là. Le rapport dense au texte, je l'ai au même. La deuxième chose, c'est que quand on travaille sur un film, quand on travaille dans une émission de radio ou au théâtre, on a un collectif. L'auteur, il a sa responsabilité de quand on travaille sur une émission de radio. Le texte t'appartient. Mais en même temps, on sait tous manipuler des images, on sait tous manipuler du son. Mais je sais bien que si on travaille en collectif, par exemple, le code, pour moi, pour le numérique, fait partie intégrale du livre. Mais le code, je ne sais pas faire. Par contre, travailler avec Gwen, quel régal, parce que donc cette instance collective, par exemple, le rapport de l'auteur au typographe a toujours été quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire, Mallarmé, un coup de dé jamais n'abolira le hasard, se crée en partie par le rapport à la création typographique, de même que Rabelais compose ses livres directement à l'imprimerie. Donc ce rapport-là, pour moi, il ne change pas. Après... Alors, est-on en danger ? De toute façon, on est en danger. Après, la question, c'est est-ce qu'on est en danger dans l'exercice pur des mots ? Pour moi, non. Quand on a travaillé sur ton texte, les photos de Sophie sur la ville, sur cette fumée au-dessus pour l'émeute, pour moi, n'enlevaient rien au travail du texte. On n'est pas dans un rapport d'illustration.
Mais c'était une couverture.
C'était une couverture, mais pour moi, ça ne change pas. On peut utiliser le pur texte là-dedans. Et dans nos modes de travail, pour moi, par exemple, n'importe quel musicien sait se servir d'un magnétophone. N'empêche que quand on passe au studio, chacun retrouve son rôle. Je pense que ce qui est sous-jacent à ce que tu dis et qui est plus important, c'est que le statut de l'écrivain change. C'est fini, le statut privilégié de l'écrivain. Le mot écrivain est né au XVIIe siècle, ça n'existe pas avant. La constitution fétichiste ou de l'auteur, ça naît au XIXe siècle pour des questions commerciales de diffusion du livre. Eh bien, aujourd'hui, c'est fini. La conception collective du travail, ça n'empêche pas l'extrême. Mais ce statut-là de l'auteur, là, oui, pour moi, il est mort.
Il y a une autre question. Allô.
Et je voudrais vous poser le thème des applications pour l'iPod et pour l'Android. Parce que ça, c'est une nouvelle forme. Et je ne sais pas si vous avez vu des faibles pour les enfants. Moi, j'ai acheté parce que j'ai un enfant. Et c'est une nouvelle forme formidable avec de la musique et des photos. Et encore, on peut jouer, on peut faire des trucs. Et c'est une nouvelle forme de création artistique, ça. Et une nouvelle commerce aussi.
Allô ?
Oui, ça marche.
C'est perdu. C'est bon, un peu plus haut ? Un peu plus haut ? Je parle très bas. Merci. Alors, il faut voir que l'application, ce sont de gros projets. Contrairement... Plus maintenant, certes, il y a des applications pour enfants qui sont d'un studio américain qui s'appelle Moving Tales. Moi, j'ai la chance d'avoir un iPad depuis le premier. Je vis à l'autre bout du monde. J'ai une petite fille de 21 mois qui est une accro absolue de l'iPad et qui, d'ailleurs, c'est son iPad maintenant à l'heure actuelle. Elle ouvre ses applications. On n'est plus sur de la BD, on n'est pas vraiment sur du dessin animé. C'est un mélange des genres. On a de l'histoire qui peut se suivre de manière linéaire ou pas. On a de l'audio, on a de l'animation. Et c'est vraiment assez extraordinaire. C'est une nouvelle création, c'est une appropriation de l'outil qui marche sur tablette, mais qui ne marcherait peut-être pas, d'une manière générale, sur Reader, puisqu'on n'a pas les mêmes possibilités. Maintenant, il faut quand même voir que, comme un film nécessite énormément d'acteurs, le réalisateur... L'éditeur, bien entendu, les acteurs, les monteurs, les gens de la lumière. L'application nécessite énormément de strates. Et il est évident qu'on arrive à des coûts qui sont importants, des coûts de développement qui sont importants. Avec nos petits outils, on est sur un autre paradigme carrément. On peut aller très très vite. On peut très bien se dire, on va là, entre quelques amis auteurs, commencer à se faire un cadavre exquis, une joute verbale. Et dans l'après-midi, c'est monté, c'est en ligne, c'est chez Apple. En y mettant de la vidéo et de l'audio si on a envie. On est sur des cycles très courts qui permettent de faire un instantané de la création. Après, bien entendu, Joar est en résidence, le sait très bien, la création, ce n'est pas que l'instantané. Il y a quelque chose d'intérieur qui va se chercher très loin. Donc l'application peut avoir tout à fait sa place, comme l'ePub, et, quel que soit le format d'ailleurs. Mais il faut quand même le prendre en considération. C'est une piste supplémentaire. Maintenant, l'application ne supplantera pas l'ePub, par exemple, ne serait-ce que pour une question de coût. Une application peut arriver à plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'aimerais bien faire des ePub à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On n'en est pas encore là.
Il y a une question, monsieur.
Oui, moi, sur un tout autre sujet, vous avez dit tout à l'heure que c'est au 19e siècle que l'auteur avait été mis en exergue et que c'était pour des raisons commerciales, mais je crois que ce n'est pas vrai, parce qu'en vérité, ça a été un combat qui a été mené en particulier par Victor Hugo et par Balzac avec la création de la SGDL, et il me semble que s'il n'y avait pas eu ce combat, ce serait toujours les éditeurs qui seraient les rois, comme ils le sont par exemple dans le cinéma américain, comme les producteurs sont les rois du cinéma américain plus que les auteurs. Je pense que il y a là donc une inexactitude historique qui fait que vous avez vous commettez un peu, à mon avis, une erreur sur ce point. Et je pense aussi que l'auteur sur Internet trouve au contraire plus d'importance qu'avant. Je pense que l'internet, le livre numérique et Internet en particulier vont valoriser plus l'auteur que dans la formule précédente où dans les 20 ou 30 dernières années, on a vu que l'auteur, l'auteur en général est assez dévalorisé par rapport à la machine globale qui l'encadre et qui le propulse.
Ouais. Non, dont acte. Oh ben, tu le remets là ou de... ouais. Dont acte pour la SGDL, mais c'est Roger Chartier au Collège de France qui a développé cette constitution symbolique de l'auteur, indépendamment de la question des droits d'auteur, qui est aussi une question très complexe. Par exemple, l'an dernier, Robert Darnton qui a publié ce livre où il analyse en quoi, justement, avant la notion que soit établie la notion des droits d'auteur, les imprimeries se pirataient les unes les autres. Et donc, cette histoire, comme ça, donc sans droit, évidemment, et ça va complètement dans votre sens, mais en quoi ce piratage, en particulier au temps des Lumières, où on reprenait comme ça à Amsterdam ou Bruxelles tel livre paru qui paraissait à Paris, ou même en France, on réimprimait à Lyon ou à Marseille des textes dont on savait que ça a contribué politiquement à installer la place de la littérature. Donc tout ça, évidemment, très complexe. Par contre, je vous rejoins aussi complètement sur le statut. Pour moi, par exemple, la notion de critique littéraire, elle a développé son autonomie dans la presse littéraire parce qu'elle est la structure de médiation comme ça des objets textes vers les lecteurs avait besoin de se structurer par des journaux avec une quantification par le temps, avec un espace comme ça de tribune les lundis de Sainte-Beuve et tout ça. Et dans la mesure où on court-circuite un petit peu ce processus, la notion de réseau, ça veut dire que c'est ça m'intéresse aussi énormément à suivre, c'est-à-dire en quoi tout de suite le texte est associé à sa recommandation et que ce qui change pour moi, un truc qui est une vraie coupure dans l'Internet, il n'y a jamais eu de coupure entre lire et écrire. Au XVIIIe siècle, c'est l'essor de la correspondance postale. Après Madame de Sévigné, ça va très vite, tout est organisé. Eh bien, le roman épistolaire va se développer avec les liaisons dangereuses, avec la nouvelle Héloïse et tout ça, ces choses considérables. Donc cette relation entre l'écriture privée et les formes littéraires a toujours existé. Mais aujourd'hui, se lire-écrire, par exemple, aller sur un site qu'on connaît et comment lui prescrit un autre site, enfin, voilà, on n'a plus, enfin, le statut ou le rôle de la critique est aussi en train de se... subi lui-même ce propre bouleversement. Là, on est un peu fatigué.
Bon, merci François. Malheureusement, on est obligé de clore. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir voir les auteurs sur le podium. Prochain rendez-vous des conférences, demain 11h, le décivilisé dans la littérature malgache, qui sera animé par Didier Galibert. Il reste également quelques places sur l'atelier d'écriture de François Bon, lundi, mardi, mercredi, 14h, 15h30, et une lecture à 18h, mercredi, sur Saint-Kilda, lecture performance. Pardon ? Il reste de place, oui, pardon, pour les ateliers d'écriture. 2 sur 20, donc c'est... Non, voilà. Bien, bonne journée et rendez-vous à demain donc sur le podium. Merci.